Bonjour à tous, vous êtes bien sur le Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct, tous les vendredis de 13h à 14h sur Radio Canu. Aujourd'hui, une émission à la fois sportive, féministe et à la pointe de l'actualité, car nous accueillons le collectif de l'Âtre qui vient nous présenter sa toute dernière création, dont la première est ce soir, et qui s'appelle...
Billie Jean, Alice Caster, mon sexe sportif. Bonjour.
Bonjour Hélène. Avec nous dans le studio, Hélène Grange, Joël Bellititi, Julien Michel et
Marion Grenier.
Je vous le disais, une émission aujourd'hui à la pointe de l'actualité. On présente... mon sexe sportif. Ensuite, on aura une lecture de Shaoqi sur une nouvelle sur le sport dans le cadre de nos lectures théâtre et sport. Et ensuite, Marion nous fera une chronique sur une autre actualité théâtrale qui se joue en ce moment. Mais tout d'abord, carte blanche au collectif de l'Âtre pour son nouveau spectacle.
Bonjour, alors voilà quelques mots sur le collectif de l'Âtre. Donc c'est un collectif professionnel, théâtral, qui est arrivé à Lyon, ma foi, il y a moins d'un an et qui a reçu la confiance de la MJC de Bron pour son accueil en résidence d'artiste depuis l'an passé déjà et puis encore cette année. Et c'est dans ce cadre qu'elle a pu créer plusieurs œuvres l'an passé et qu'elle ouvre cette saison à la MJC avec la dernière création de théâtre didactique féministe. J'expliquerai un peu plus loin dans l'émission ce que j'entends par là. Elle ouvre donc cette saison-là par la sortie de résidence du projet Billie Jean, Alice Caster, mon sexe sportif, qui a été un projet en gestation d'un mois et qui aboutit ce soir pour une première à la MJC 20h30.
Et est-ce que tu peux nous raconter d'où vient cette idée de faire un travail sur les femmes sportives?
Oui, alors on avait reçu une commande de la ville de Lyon pour le 8 mars 2011, donc la journée des femmes, qui portait sur les femmes et le sport. Donc on avait dû composer une performance d'une demi-heure en marge d'un colloque, enfin en première partie d'un colloque, c'est plus juste, qui portait sur cette question-là à l'hôtel de ville de Lyon. Et puis on est quand même resté un peu frustré. On s'est dit, bon, alors une demi-heure, c'est quand même pas assez. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet-là. En faisant nos recherches avant l'écriture, on s'était vraiment aperçu de la fécondité de ce sujet. Il y a des tas d'analyses qui existent en la matière. Et puis c'est passionnant de voir à quel point la discrimination dans le monde du sport féminin est prégnante et encore d'actualité, et plus que jamais. Puisque on vient de vivre les JO de Londres et on a pu s'apercevoir quand même de pas mal de problèmes, notamment au niveau des commentateurs sportifs, au niveau de l'accès de certains sports aux femmes. Enfin, ça a été mis sur le devant de la scène par les médias, c'est une bonne chose. Et on a donc eu envie de développer cette création et de faire une deuxième version d'une heure, celle qui sera présentée ce soir et qui est beaucoup plus théâtrale que la première, qui était vraiment performée. Donc voilà, et aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagnée d'une des actrices, Joël Bellititi, qui est un des deux personnages sur cette créa.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous raconter, parce qu'en fait il y a assez peu de textes théâtraux ou même non théâtraux qui allient la question du sport déjà et la question de la féminité en plus. Du coup, d'où est partie ton inspiration? Comment s'est passé le travail d'écriture?
Alors, bah, effectivement, c'était un peu compliqué puisque les sources sont nombreuses sur le terrain sociologique principalement et pas vraiment artistique, quoi. On a très peu de pièces sur cette question-là. Et puis, bon, sur la question des discriminations faites aux femmes, c'est rarement sur la question du sport en background. Donc, du coup, oui, il a fallu faire récolte de beaucoup de sources sociologiques et anthropologiques. Il y a des spécialistes en la matière qui m'ont beaucoup nourri. Et ça a été la base de mon travail, associé aussi à une recherche importante sur l'histoire du sport féminin, qui date de la fin du 19e siècle. Enfin, ça commence à devenir notoire, on va dire, à cette époque-là. Donc, il y avait toute une exploration du côté de l'histoire des pionnières qui ont fait le sport féminin. Et puis, évidemment, la source médiatique pour voir ce qui se commentait sur le fait sportif. Ça a été la source d'inspiration. Et puis, l'écriture a suivi avec la consigne que je m'étais donnée d'écrire une pièce didactique féministe. Voilà, c'est un petit peu particulier. On est là pour exposer vraiment une théorie en abordant plusieurs arguments. On prend position délibérément et on n'est pas tout à fait dans la fiction. On est sur un patchwork de fiction. Il y a plusieurs petites scénettes qui s'imbriquent les unes aux autres. Mais on n'a pas d'histoire métaphorique. Voilà, on a vraiment un exposé de plusieurs situations inspirées de faits réels, archi réels, malheureusement.
Est-ce qu'il y a une athlète en particulier qui t'a inspiré?
Alors beaucoup trop. C'était très difficile à passer au tamis, justement, parce que même si elles sont pas extrêmement nombreuses, il y en a quand même beaucoup dans l'effectif qui se sont battus comme des lionnes pour obtenir les choses. Sur tout un siècle d'histoire du sport, bon, il y a quand même quelques figures. On a fait trois grandes sélections, on va dire, qui sont dans le titre du projet. Donc Billie Jean King, qui était une grande tenniswoman, qui est toujours une grande tenniswoman, mais qui est à la retraite, et qui a fait un scandale médiatique. Mais vous le verrez en allant voir la pièce ce soir, je bafouille. Il y a eu Caster Semenya, qui a fait l'objet de tests de féminité ultra médiatisés en international, ce qui l'a complètement humiliée. Elle a été suspectée d'être un homme parce qu'elle avait de super résultats. Et puis, il y a eu Alice Milia, qui est une fondatrice pionnière des sports au début du XXe siècle, qui nous a aussi beaucoup inspiré. Mais il y en a beaucoup d'autres qu'on n'a pas pu évoquer et qui nous ont portés dans ce travail.
Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces tests de féminité? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'a interpellée aussi au départ du travail. Qu'est-ce que c'est?
Ouais, c'est un sujet très sensible parce que c'est scandaleux. Le test de féminité, c'est un procédé qui permettait aux scientifiques, soi-disant, hein, de prouver qu'une femme était bien une femme. Voilà.
Parce qu'il y avait donc des soupçons de non-féminité sur des athlètes qui étaient trop performantes.
Tout à fait. Il y avait une suspicion au départ sur les performances féminines et les institutions du sport ont trouvé ce beau procédé ravissant d'écarter les jambes aux femmes pour aller vérifier si elles n'avaient pas des testicules internes ou une structure utérine trop particulière. Et il y a eu aussi toute une série d'analyses sanguines et d'analyses tout court pour déceler une éventuelle masculinité, virilité, enfin un taux d'hormones plus masculin chez ces femmes-là. La question du genre étant très sensible et la question du genre physiologique encore plus, ça a été très compliqué, ça a humilié une bonne flopée de personnes.
Parce que les résultats étaient ensuite étalés dans la presse.
Oui, tout à fait. Et puis il y a de réelles ambiguïtés sur la question du sexe, en fait. Donc là, on était en pleine situation ubuesque, en fait. Il y a des tas de femmes qui ont dû remettre leur titre au vestiaire à cause de ces tests-là. Fort heureusement, les choses se sont quand même beaucoup calmées. Mais
ça,
on s'est aperçu
dans les années 70, à peu près.
Oui, quand il y a eu les premiers scandales qui sont apparus. Mais Caster Semenya, c'est une des figures qu'on a beaucoup aimé et dont on s'est inspiré. Elle a fait les frais de ce joli test de féminité il y a quelques années à peine. puisqu'elle avait gagné le 400 mètres et qu'on la trouvait beaucoup trop masculine, trop poilue, pas de forme, pas de hanches, pas de seins, et puis qu'elle courait sans culotte brassière. Donc on a trouvé ça bizarre, et voilà, elle a été épinglée sur la scène internationale. Ça a été terrible pour elle, mais elle en est ressortie. C'est une grande championne.
C'est la force des femmes. Et du coup, tu as réuni toutes ces championnes et ces sportives dans un personnage.
Oui, on a plus créé des figures qu'autre chose. En fait, il y a deux types de personnages dans ce spectacle. Il y a le personnage de Sabine, qui est une jeune fille qui est préadolescente, adolescente, puis jeune femme, on va dire, qui nous permet de suivre un parcours initiatique et en chemin pour devenir championne de haut niveau, puisqu'elle veut être footballeuse professionnelle. Elle se bat pour ça tout au long du spectacle. Elle côtoie un certain nombre de personnages féminins, et j'insiste, puisqu'il n'y a pas de personnages masculins dans ce spectacle. Donc des personnages féminins qui, de la prof de sport, de PS, qu'on a tous un peu dans un coin de notre tête en souvenir, de la doctoresse, justement, qui lui fait subir un test de féminité, de la grande sœur, qui ne comprend pas sa jeune sœur et lui balance tous les clichés de la féminité. Voilà, ça fait toute une galerie de personnages féminins que rencontre Sabine.
Notre apprentie aspirante joueuse de foot.
Tout à fait, qu'il arrive beaucoup de choses, ma foi, c'est semé d'embûches.
Peut-être qu'on pourrait écouter une première lecture pour se rendre compte un petit peu de ce qu'elle traverse.
J'exercerai ma discipline de manière professionnelle. Il n'y a pas d'autre façon pour moi. Je dois m'entraîner chaque jour. Comment faire pour atteindre et me maintenir au haut niveau si je dois concilier une autre activité professionnelle avec mes entraînements? Vous imaginez la vie que c'est de s'entraîner au-delà du reste? Pour la récupération du corps, c'est impossible. Pour la rétribution de là ou du coach, si ce n'est pas pris en charge, c'est moi qui vais devoir payer. Et les transports pour se rendre en compétition ici ou là, mais comment faire? En semi-professionnel peut-être, pour commencer?
Faites comme toutes les sportives de France. Organisez-vous. Trouvez-vous une profession à côté qui vous permette vos loisirs, comme tout le monde.
Mais ce n'est pas un loisir. En faire son métier, c'est tout de même possible. À l'étranger, c'est possible. On voit de nombreuses licenciées valorisées par les États, rétribuées pour leurs actes.
Si le système vous déplaît, partez donc là où vous pourrez être salariée sportive. Mais très franchement, pourquoi ne pas être raisonnable et vous insérer normalement dans cette société? Être payé pour taper dans une balle ou nager dans une piscine, c'est quand même un luxe, non? Vous ne trouvez pas? Vous ne pensez pas que vous seriez plus utile à un poste bien précis dans la société active plutôt qu'à vous amuser sur un terrain? J'ai beaucoup de respect pour le spectacle sportif à la télévision, mais laissez cela aux messieurs baraqués. En plus, ça nous permet d'admirer de belles musculatures viriles, nous les femmes.
Mais je ne fais pas que du spectacle en jouant. Les sportifs inspirent aussi aux gens à développer des valeurs du sport. Le bien-être, le dépassement de soi, la santé, la solidarité.
Oui, permettez-moi de vous dire ça. Vous pouvez le faire bénévolement. C'est aux associations de s'occuper de l'humanitaire. Ça vous intéresse pas? Go Sport embauche. Vous seriez dans votre univers.
Peek-a-boo, I see you. Peek-a-boo, I'll kiss you. Keep you out of mischief, make your blues skidoo. Silly to be shy with you know who. Peek-a-boo, peek-a-boo, I'll kiss you. Hide and seek, that's the game we've been playing. Had a little fight last week, but now my poor heart is saying, peek-a-boo, I love you. Better make your mind up that you love me too, 'cause you're gonna marry you know who. Peek-a-boo, peek-a-boo, I love you. too, 'cause you're gonna marry you know who. Peek-a-boo, peek-a-boo, I love you.
Donc c'était Rose Murphy avec Peek-a-boo, qui fait partie d'une une chanson de la bande-son du spectacle.
Un spectacle qui est donc qualifié de féministe et didactique. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Alors, j'ai évoqué précédemment l'aspect didactique du spectacle, mais l'aspect féministe maintenant. J'ai dit un peu plus tôt que les types de personnages que Sabine, notre héroïne, entre guillemets, notre personnage fil rouge, rencontre, sont des femmes. Que des femmes. Même s'il y a le spectacle est jalonné de samples audio où on peut entendre aussi des commentaires sportifs venant de garçons, vous les entendrez tout à l'heure, les rencontres que Sabine fait sont des femmes. Pourquoi ? J'ai voulu éviter le clivage un peu rapide femme-homme qu'on retrouve systématiquement dans les œuvres féministes. Et j'ai voulu interroger un autre aspect en fait du problème qui est à mon sens pas assez abordé dans les discussions, dans les débats féministes et féminins. C'est précisément la place que la femme tient dans le sexisme. Voilà. La pièce Mon sexe sportif est tissée de ça, est cousue de cet argument-là. Puisque, bah voilà, je le répète, toutes les femmes que Sabine rencontre sont des femmes, au Pôle emploi, chez le docteur, voilà. Et toutes ces femmes-là qui sont rencontrées sont vraiment des horreurs en termes d'égalité des sexes et de féminisme tout court. Il y a aussi une phrase qui est importante dans le spectacle et qui, moi, me tient beaucoup à cœur. C'est pour ça que je l'ai mise. C'est et depuis quand une femme reproche à une autre femme d'être féministe ? Voilà, on a le personnage de la grande sœur qui se moque un peu de sa petite sœur qui veut devenir sportive et lui dire oh, ça va, tes propos féministes, ça va bien deux secondes. Et il y a cette réaction-là.
C'est une phrase que tu as lue ou
Non, c'est une phrase malheureusement que j'entends beaucoup trop, je trouve. Féministe, c'est un mot qui pose problème aujourd'hui, alors que ça devrait pas.
Même
c'est pas un parti politique, c'est pas voilà, c'est un positionnement pour l'égalité femme-homme. Donc je vois pas en quoi ça pose un problème. Et donc c'était aussi ma petite contribution au travail que font plusieurs associations dans ce sens-là, de dire attention, il y a un sexisme à refuser ce terme. On rencontre pas mal de femmes hein, qui dans le débat disent attention, je suis pas féministe, mais quand même voilà, pourquoi dire ça ? Ça m'interroge beaucoup. Et il se trouve que dans le milieu du sport, comme dans d'autres milieux qui posent problème au niveau de l'égalité des sexes, dans le milieu du sport, on a des personnes qui ont valorisé ce sexisme-là, les doctoresses qui se sont livrées à ces tests de féminité, même si bien sûr, malheureusement, les ordres viennent d'en haut et elles n'ont pas toujours pleine licence de faire ce qu'elles veulent. Mais effectivement, hein, la conseillère Pôle emploi, moi j'en ai rencontré, sans être sportive, des conseillères qui donnent des conseils incroyables en engageant les femmes qu'elles ont en face d'aller faire des métiers de femmes, hein, tout simplement. Et puis, la relation qu'il y a dans le spectacle entre la grande sœur et Sabine, qui est assez symbolique aussi, puisque la grande sœur est une femme, mais on apprend qu'elle est chez elle, qu'elle est femme au foyer, comme on dit, et que finalement, elle est la seule responsable de cette situation, étant donné que son conjoint ne l'a jamais forcée à faire le ménage ou à lui préparer des petits plats. Voilà. Donc, tout ça, c'est un peu compliqué de se repérer. Il faudrait venir voir le spectacle, encore une fois, 20h30 ce soir.
Ce soir, 20h30.
mais voilà, je tenais à mettre l'accent là-dessus parce que c'est pas uniquement un phénomène masculin que de perpétuer le sexisme, c'est aussi un phénomène féminin. Voilà, donc ça me semblait très important de le dire. Aussi par rapport à la notion de féminité, qui est complètement interrogée dans le milieu des sports. C'est en plus le monde, je pense, le monde sportif, c'est vraiment l'endroit où on trouve le plus de problèmes par rapport à cette notion, quoi. Qu'est-ce qu'un corps féminin? Qu'est-ce qui se passe quand le muscle se développe? Le muscle, c'est beaucoup l'attribut masculin. Donc, comment ça se fait? Comment ça se passe quand les différences d'apparence se gomment comme ça? On a, c'est vrai, des corps d'athlètes qui sont stupéfiants pour les femmes. Donc, il y a une véritable crainte, je pense, de gommer aussi la différence entre les genres. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a un vrai tollé et que c'est le sport, le monde du sport est un milieu extrêmement sexiste encore. Mmh. Voilà.
Dans ton écriture, toi, du coup, tu allais regarder dans la presse les prises de position ou les non-prises de position par rapport à cette question
de la
féminité.
Oui, tout à fait. Ouais. Alors, les personnes commencent à se prendre des procès quand même, hein, quand ils ont des procès sexistes, des
propos sexistes.
Sexistes, donc ils évitent. Mais quand on écoute attentivement les commentaires qui se font, bon, particulièrement sur les épreuves de beach volley, par exemple, qu'on aborde aussi dans le spectacle, bah oui, on a tous les commentaires qui sont sur le corps féminin, qui en plus est ultra exposé, puisqu'on a une mini culotte, une mini brassière, et que tout le reste est complètement exhibé. Voilà, on s'aperçoit que sur les plans des caméramans, on trouve quand même beaucoup de miches. Et que ça, c'est marrant dans un premier temps, et puis c'est très grave dans un autre. Parce que ça révèle quelque chose. Voilà.
Effectivement, de la part des commentateurs, j'ai un souvenir comme ça d'un match de tennis où le commentateur regrettait que la tenniswoman ne porte pas de jupe et trouvait ça vraiment, vraiment très étrange. Presque, il était choqué de ce port du short.
Tout à fait. Oh bah, y a eu beaucoup de soucis par rapport à la jupette obligatoire. Et puis, on entend des arguments incroyables. C'est-à-dire que les sportives... Et encore une fois, voilà encore des bastions du sexisme, hein, certaines sportives qui correspondent aux normes dites féminines, qui revendiquent de porter des choses extrêmement courtes, y compris des jupettes, en disant que c'est important pour les sponsors parce que ça fait monter l'audience et que du coup, le sport est plus visible. Voilà, donc là, tout le boulot est à recommencer, quoi. Je veux dire, si les femmes, en plus, ne soutiennent pas la liberté possible de porter un short ou de s'habiller un peu plus en long, enfin bon, bref,
on
est en grande difficulté. Voilà, mais il y a plein de choses comme ça qui semblent être des petites choses, mais qui, assimilées, additionnées, composent un grand tout qui est inacceptable. Inacceptable, mais si vous voulez bien, d'ailleurs, on va écouter un des samples du spectacle qui porte sur des commentaires sportifs un peu particuliers. Je vous laisse en juger.
Et là, elle s'engage dans un service à la cuillère un peu risqué, mais...
Elle n'a pas peur de sauter, hein, elle saute assez haut. Elle a atteint apparemment le record du monde.
Ah bah, c'est beaucoup entraîné. Hein.
Bah, c'est beaucoup entraîné. Elle est à 30 cm du record homme, mais elle est déjà, pour un record féminin, c'est...
Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors que là, le caméraman s'attarde sur les jolies formes de notre Suédoise Daniela.
Non, on peut dire fesses.
Des jolies fesses, en effet. Ah, 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 concours avec les formes de Sabrina, la française.
Bon, alors, pendant cette petite interruption de match, donc on voit bien les poids, quoi, comment ils ont été menés par Sabrina, cette belle Sabrina élancée qui vient de Russie.
Oui, un bel échange aussi avec Daniela, Sabrina, Tatiana. Le trio infernal, comme on les appelle. J'ose même pas imaginer comment elles sont à la maison.
À la maison, oui, c'est clair. Ça doit être des sacrés bouts de femmes. Elles doivent tenir le collier.
En effet.
Bonne paire de... Bon.
Alors qu'on voit le ralenti, admirer les belles fesses de Manuela.
Ah, les jambes,
je me permets.
Oui.
Je me permets parce que là, on a vraiment un aperçu de toute la... Très, très bien.
Ah bah, elle travaille, là, c'est le galbe, elle travaille, on sent que c'est des sportifs de haut niveau.
Des sportifs de haut niveau,
Et c'est pour ça d'ailleurs que le débat qui fait éclat en ce moment par rapport à ces jupes et ces shorts ne devrait pas forcément avoir lieu puisque le principal c'est le sport et
bien
puis
sûr,
si au passage on a quelques écarts après tout.
Mais dis-moi Hélène, c'est pas des vrais commentaires.
Ça pourrait, figure-toi, ça pourrait. Non, c'est deux comédiens qui nourris de sources documentaires on fait ce sample-là.
D'accord, mais c'est quand même basé sur des faits réels.
Ah, tout à fait. Il y a même pire, hein. Je précise, il y a pire. Vraiment, vraiment.
J'en doute pas. Ça qui est terrible. Mais du coup, c'est à partir de ce constat, on en est où ? Est-ce que finalement le spectacle tire un peu des perspectives d'action, des perspectives de recherche, de mouvement féministe ? Est-ce qu'il souligne, je ne sais pas, des actions concrètes qui ont pu être faites pour avancer un petit peu dans ce...
Alors oui, il souligne des actions parce qu'on évoque les pionnières. Donc elles ont bien dû déplacer des montagnes pour arriver à ce qu'on a déjà aujourd'hui. Hein. Il y a quand même des acquis sociaux, il y a des perspectives en termes professionnels, même si le travail est deux fois plus dur pour une femme que pour un homme pour trouver une situation acceptable professionnelle aujourd'hui. Il y a quand même des choses qui ont bougé, on les souligne, ces perspectives-là. On ne donne pas de leçons, puisqu'on considère que la pièce de théâtre doit semer le doute et que c'est le public qui doit travailler sur, s'il le souhaite, sur solutionner le problème. Voilà, on ne cite pas d'association non plus, on soulève beaucoup de choses, on met le doute, on évoque des victoires, des conquêtes, mais on exprime aussi le fait qu'il y a beaucoup de travail encore à faire. Voilà, donc on est semeuse de doutes.
Intéressant. Est-ce que du coup, on pourrait écouter peut-être, je crois qu'il y a un passage que vous vouliez lire sur une de ces pionnières, Caster ?
Oui, on va écouter un petit extrait d'un solo sur Caster Semenya.
D'accord, qui apparaît dans la pièce. Et on écoute Joël.
Je suis Caster, j'ai 19 ans. Je porte des couleurs sur un drapeau, je porte des couleurs sur mon dos. Mon pays, c'est l'Afrique Sud. Je reviens de loin, mon pays aussi. Un jour, j'ai couru un peu vite. En même temps, c'était ma mission, je suis championne. Et on me dit champion. On me reproche soudain de porter un caleçon collant et pas une culotte et une brassière. Je suis championne. Et on me dit champion. On dit que je suis un, que je suis un garçon. C'est une femme qui l'a dit d'abord, une coureuse, une concurrente. Elle a crié dans sa colère. C'est un homme, elle n'est pas elle, c'est pas une vraie femme. J'ai dû remettre mon titre en jeu. J'ai vu partir tous les podiums, j'ai écarté les jambes sans foi, mais sans amour. Sans amour, mes jambes ouvertes devant ces médecins qui voulaient trouver le problème. Oui, j'ai ma voix grave. Oui, j'ai presque pas de seins. Oui, j'ai des muscles très développés et le ventre dur comme de l'acier. Mais j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. J'ai développé cuisses et fessiers pour fouler tous ces mètres de sable rouge, de couloirs olympiques qui bougent sous mes talons, qui marquent le sol. Mon empreinte sur terre battue. Comme Marilyn devant Broadway, moi, mon empreinte est en basket. Je suis sculpturale. Je suis en sculpture. Dure, en très dure. Humiliation. Coup dans ma tête. J'étais l'exposition universelle, à moi toute seule. Je me suis revue noire, étudiée telle une bête. Sauf que là, c'était pour prouver que j'étais une femme. On ne doutait pas que j'étais humaine, c'est déjà ça.
Eh bien. Et ça, c'est un texte qu'elle a écrit
Non, c'est moi.
Toi. D'accord. Non, rendons à l'auteur ce qui est à l'auteur. D'accord. Ouais.
Je voulais préciser une autre chose par rapport à l'engagement du collectif sur la chose féministe, les questions féministes. Le collectif a carrément créé toute une branche, en fait, de son activité qui s'est spécialisée dans la création et la diffusion de théâtre didactique féministe qui s'appelle Femmes de l'âtre. Hein, du coup, collectif de l'âtre, Femmes de l'âtre. Et on a déjà créé un autre spectacle qui s'appelle Mon sexe au comptoir. Voilà, parce qu'il y a Mon sexe sportif, il y a aussi Mon sexe adolescent, une série d'ateliers sur les filles-garçons au collège, enfin voilà, pour dire qu'il y a un certain nombre de recherches et de créations dans ce cadre-là et que vous pouvez les trouver sur le site de l'ATRE, www.atre.fr, c'est important. Si vous êtes intéressé, on travaille avec beaucoup d'associations et à l'instant même, on est en tournée en Languedoc-Roussillon et en Rhône-Alpes avec un certain nombre de ces créations. Il y en a 6 ou 7 en ce moment.
Ça donne envie. Et pour parler justement de ce sujet que vous soulevez, du féminisme, est-ce que dans votre création, par exemple, vous avez rencontré des résistances ou des questions fortes du fait de ce positionnement ou du fait voilà, de votre envie de montrer ce spectacle ?
Oui, on a eu les sempiternels. Oh, ça évolue beaucoup. De quoi, voilà, c'est pas la peine de mettre le doigt sur ces choses-là. Il y a des choses plus importantes. Ça, c'est le grand argument pour faire passer à plus tard, en arrière-plan, les questions qui nous touchent. Hein. Oui, donc bien sûr, on a eu des réactions comme ça. Mais on a aussi eu des personnes qui nous ont soutenues, qui étaient étonnées de cette démarche-là. Je rappelle juste des hospices sous lesquels on peut jouer là ce 19 au soir. C'est la quinzaine de l'égalité, qui est une manifestation régionale à l'initiative de la commission égalité femmes-hommes de la région Rhône-Alpes. Et la direction des sports de Rhône-Alpes se joint à la quinzaine pour soutenir ce projet. Voilà, c'est très important parce qu'ils ont été très enthousiastes à l'idée qu'il y a un format théâtre sur ce sujet-là. Mmh. Dans les sports, qui puissent exister et qui s'apprêtent à tourner en fédération, en ligue et en club sportif, puisque c'est le grand objectif de ce spectacle, pouvoir aller à la rencontre de sportifs en herbe pour sensibiliser à cette question.
Vous avez déjà eu des rencontres ou pas encore, justement?
Et non, là, c'est un peu frais comme on sort de résidence, mais ce soir, il y aura des fédérations sportives. Donc
venez ce soir à 20h30 à la MJC de Bron pour donner votre avis. Peut-être on a encore un extrait du spectacle pour...
Oui, on peut peut-être écouter un autre bout de la bande son du spectacle qui m'aura vu à chaque fois qu'on l'entend. Voilà, Rose Murphy et sa voix si particulière. Button up your overcoat when the wind is free. Take good care of yourself, you belong to me. And Chi-Chi, eat an apple every day. Get to bed by 3. Take good care of yourself, you belong to me. Be careful crossing streets. Ooh, don't eat meats. Ooh, cut out sweets. Ha ha, you'll get a pain and ruin your tum-tum. Don't go out with fancy girls when you're on a spree. Take good care of yourself, you belong to me. And Chi-Chi.
You belong to me. Et voilà, ainsi s'achève la carte blanche au collectif de l'âtre, au collectif
féministe. Merci de nous avoir reçus.
Merci à vous. Et puis, du coup, bon spectacle, bonne première ce soir. Et venez nombreux ce soir, 20h30, à la MJC de Bron pour voir le spectacle Billie Jean, Alice Caster, Mon sexe sportif.
Merci Clara de nous avoir accueillis.
Merci à vous. Et tout de suite, je laisse la place à Shaoki qui va nous lire une nouvelle de Tristan Garcia sur le sport, comme c'est maintenant de tradition dans notre cycle de théâtre, sport et théâtre.
La libéro de Cuba. La libéro cubaine, je ne dirai pas son nom par précaution, mais beaucoup la reconnaîtront, c'est par amour pour une fille qu'elle s'était mise au volet. Et à force, ça se savait. Là-bas, elle souffrait de son attirance pour les beautés aux traits réguliers et aux cheveux coiffés à l'américaine. À 13 ans, fascinée par une camarade de jeu, elle s'était engagée dans l'équipe du quartier, à Camagüey. Grande comme elle était, passionnée, vive et musclée, habituée à courir et à sauter dans les vastes étendues mamelonnées des llanuras de sa région, on aurait échoué à la faire progresser en volée que c'eût été un crime. Elle avait les paumes des mains larges comme des raquettes et les doigts fins. Sa camarade est partie à l'école, au sud, vers Manzanillo. La future grande libéro-cubaine a alors pris des formes, mais elle est restée timide comme une gamine. Par dépit, elle acceptait de partir pour Santiago. D'abord triste et amaigrie, elle s'est rattrapée sur le terrain. Elle est même devenue moins naïve et plus rusée. Et lorsque la belle Maria, mariée je crois, est devenue capitaine de l'équipe nationale, elle a encore progressé. Sélectionnée en espoir, elle a pris le poste de libéro qui nous faisait défaut depuis sa création par les instances internationales pour rejoindre les A. Maria resta un amour honteux. S'il s'était passé quelque chose de plus entre elles, je ne sais pas, mais la rumeur s'était répandue dans les couloirs de la fédération. La jeune libéro était irremplaçable. On n'en avait pas d'autre à disposition. Le ministère prit donc la responsabilité d'éloigner Maria, qui ne joua plus jamais au haut niveau. Je ne me souviens plus de ce qu'on lui trouva comme emploi dans la province de Guantanamo. Après cette décision présentée comme une promotion, la grande libéro grimpa encore dans la hiérarchie. Elle devint porte-étendard des filles du pays. Sa gloire, sa présence au meeting et son apparition régulière dans les médias avaient évidemment un prix. La fierté de notre pays était en permanence chaperonnée par deux hommes de la Fédé. Elle n'approchait plus une femme à moins d'un mètre, une fois les matchs et les entraînements terminés. Sans l'avouer, on l'avait assignée à résidence. De temps à autre, on lui glissa un beau gars entre les pattes, histoire de voir si elle avait changé de goût. Mais les mâles sont toujours revenus intacts. C'est seulement en demi-finale du mondial que la grande libéro de Cuba se trouva repositionnée en pivot, près du filet. Une gamine plus rapide qu'elle avait fait son apparition au centre de formation, avant de gravir à son tour tous les échelons de la sélection. Et puis l'habituel avant-centre était blessé. Exilée au filet, notre grande capitaine rencontra enfin Lorraine l'Américaine. Une blonde élancée, inconnue au haut niveau. Elle était gracieuse quand elle refaisait sa queue de cheval, élégante à la relance. Tous les hommes l'aimaient. Ils regardaient du volet uniquement pour avoir l'occasion de la mater. C'est son entraîneur qui me l'avait dit. Je connaissais la grande, je savais ce qui allait se passer. Ses mèches lisses et le rosé de ses joues finiraient par la rendre folle. Avant même l'engagement, l'ex-libéro chercha le regard de Lorraine à travers le grillage du filet. Les Cubaines partaient favorites. Lorraine, jeune et inexpérimentée, était le maillon faible du 6 américain. Une attraction médiatique plus qu'autre chose, disaient certains. Forcément, dès le premier point, la Cubaine était amoureuse. Lorraine, houspillée par ses coéquipières énervées après son service roulette mal exécuté, avait l'allure irrésistible d'une biche effarouchée, sous la menace d'une horde de chasseurs. À chaque coup gagnant contre son homologue paniqué de l'autre côté de la grille qui les séparait, la Cubaine avait le cœur brisé. À la fin du premier set, elle laissa volontairement faiblir son bras sur un contre pour permettre à Lorraine de reprendre pied. Lorsque Lorraine, réajustant l'élastique de sa coiffure, lui sourit, je me suis dit « ça y est, c'est fini ». Au milieu du deuxième set, à notre avantage assez net, la Cubaine essaya de frôler la main blanche, longue et belle de l'Américaine. Au-dessus des 2,24 m du filet, les deux filles se disputaient le ballon. Très fugitivement, elle sentit la peau tendue, fébrile de son adversaire. Elle avait envie de pleurer. Je la connaissais d'assez près pour le savoir. Quant à l'entraîneur cubain, préoccupé par la baisse évidente de régime de son équipe, il ne remarqua rien. Ces deux adjoints continuèrent de mâcher leur chewing-gum en discutant stratégie. Au terme du deuxième set, la grande cubaine crut que Lorraine l'aimait en retour. Son geste inhabituel de l'épaule et de la poitrine avant la remise lui paraissait sans doute des indices suffisants. Pourtant, l'air pudique et enfantin de Lorraine, lorsqu'elle se mordillait la lèvre inférieure, la rendait folle d'incertitude. Notre ancienne libéro se décida à lui offrir un set comme des fleurs. Déséquilibrant un brin les relations entre ses partenaires et la circulation de la balle à chaque intervalle, elle ne s'exposa pas personnellement, mais elle permit aux Américaines de remporter la manche de peu. Elle fut mortifiée de jalousie de voir Lorraine, les bras levés, se presser contre l'une de ses coéquipières, lourde et quelconque. Lorraine lui caressa le dos de joie, et notre capitaine perdit tous ses moyens, aveuglé par le désir et le dépit. Je la surveillais depuis la touche, j'étais le seul à comprendre ce qui lui arrivait, mais je n'en soufflais pas un mot à mes compatriotes. Au troisième set, la grande cubaine reprit son poste de libéro. L'entraîneur était en panique, priant pour retrouver l'équilibre de son équipe de l'an passé. Il avait fait sortir la jeune espoir cubaine pour privilégier l'expérience. Le visage de ma protégée s'empourpra de frustration. Elle se trouvait reléguée à la défense, la réception, la relance, partout sur le terrain, sauf à proximité du filet. Une libéro renonce toujours aux activités offensives et se consacre aux tâches défensives. C'est comme un révolutionnaire en période de réaction. Au terme d'une action confuse, elle ne put se retenir. Elle glissa sur le parquet orange et laissa sa jambe traîner de l'autre côté. Alors, l'air de rien, Lorraine lui flatta le mollet. Peut-être lui conseillait-elle simplement de se relever, ou bien voulait-elle s'assurer avec fair play que son adversaire n'était pas blessé. Elle caressa en tout cas la cubaine du bout des doigts sans la regarder. Je suis médecin et je sais reconnaître quelqu'un qui n'a plus tous ses moyens. Ma joueuse voyait flou et elle tenait à peine debout. Le troisième set tomba dans l'escarcelle américaine. C'est à cet instant que les délégués de la fédération, mes collègues, comprirent ce qui se tramait dans le filet entre les deux filles. Au début du quatrième set, notre cubaine s'aperçut qu'elle était surveillée, mais je crois qu'elle ne put s'empêcher de craquer. Avec un petit cri, Lorraine se mâcha trop près de la ligne centrale. Au contre, la libéro bouscula ses avants et se jeta dans les raies du filet sous le câble d'acier gainé. Elle avait fermé les yeux afin d'enlacer sans espoir son amour de l'autre côté, les doigts comme des crochets à travers les mailles, le visage un court instant plaqué contre la gorge de l'Américaine qui grimaça déséquilibrée. Je me suis levé. Je ne voulais pas en voir davantage. Il paraît que les deux volleyeuses sont restées 3 ou 4 minutes prisonnières des cordages qui avaient cédé sous le poids de la charge. On aurait cru 2 sirènes dans les filets d'un chalutier, m'avait dit l'entraîneur. Est-ce qu'elles se débattaient, enlacées à dessein ou malgré elles? Il fallut de la patience et de la force aux officiels du tournoi pour les dégager de leur nasse et les séparer. À peine égratignées par leur chute, mais les cheveux lâchés, enroulés dans les fils, les câbles et les cordelettes. Et les deux adjoints moustachus de Cuba évacuèrent sans ménagement leur grande libéro pour la boucler dans les vestiaires. Elle pleurait, le short déchiré. On m'a dit qu'elle cherchait Lorraine du regard, mais l'autre avait déjà clopiné jusqu'au banc américain, la tête baissée. Je ne me sens pas particulièrement fier. Il fallut une demi-heure pour remplacer le filet. Ensuite, privés de leur capitaine emblématique, les malheureuses cubaines s'écroulèrent et leur ticket pour la finale s'envola. Elles n'avaient rien compris à l'affaire. L'ex-grand libéro de Cuba fit un tour derrière les barreaux ou un hôpital psychiatrique, je ne sais pas vraiment. Elle vit aujourd'hui dans un petit village où elle a été placée par la corporation des tisseuses et des brodeuses. Elle y est prise en charge par la Fédération des femmes cubaines. Elle manie le fil et l'aiguille, tisse au crochet ou au fuseau, fait de la dentelle ou du passe-lacé pour les exportations. Les autres femmes forment des jeunes garçons et des jeunes filles au métier, pas elles. À Miami, j'ai récemment revu Lorraine avec son mari, le sélectionneur des États-Unis. Mon billet pour la Floride était à ce prix. J'avais vendu la petite particularité de la grande libéro cubaine à un agent américain qui sondait les dissidents potentiels dans les équipes entre 2 portes d'hôtel à l'occasion des grandes compétitions internationales. On avait choisi Lorraine sur photographie et je lui avais dit quand et comment la chauffer durant le match. Lorraine demandait toujours de ses nouvelles. Je ne voulais pas faire ça. Son mari regrettait aussi. Il affirmait que la CIA lui avait forcé la main, mais il était trop tard, le mal était fait. Et tristement, nous avons bu un Cuba Libre à sa santé.
Voilà, merci Shaoqi pour cet extrait, enfin cette nouvelle hein, du recueil En l'absence de classement final de Tristan Garcia. Et tout de suite, je vais céder la parole à Marion Grenier pour la chronique de fin d'émission. Juste avant, je vous rappelle notre prochaine émission qui ouvrira le cycle de lecture sur Kateb Yacin, donc la semaine prochaine sur Radio Canu de 13h à 14h en direct. Et à toi Marion.
Merci Clara, merci à vous pour cette carte blanche très intéressante. Bonjour à tous. Alors oui, cette chronique d'actu théâtrale que l'on a entamée il y a quelques semaines sur les ondes du Théâtre de la Gamelle prend déjà un peu ses aises sur les ondes. Pas de billet d'humeur aujourd'hui, ni de micro-trottoir avec les spectateurs, mais un focus sur un projet que nous avons voulu défendre, vous faire entendre et découvrir avec vous. Le spectacle s'appelle « Dire », l'auteur Daniel Colaubert, le metteur en scène Philippe Labaune du Théâtre du Verseau. Et les deux comédiennes qui sont ici avec nous dans les studios de Radio Canu, Leïla Brahimi et Keiko Yokota. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et bienvenue.
Merci.
Alors vous jouez Dire très bientôt du 22, donc c'est lundi, hein, ce lundi 22 octobre au 27 octobre. À l'Atelier du Verseau. L'Atelier du Verseau, c'est rue Pasteur dans le 7e arrondissement de Lyon.
C'est ça.
Voilà. Ouais. Juste un petit mot pour introduire le spectacle, écrit par Philippe Labaune, le metteur en scène, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Il dit que Dire, c'est un long poème qui s'épure à mesure qu'il avance vers son terme, une voix qui se dénude jusqu'à toucher presque à l'impossibilité du poème. Voilà, donc on est dans un autre registre que la thématique du sport. Mais je vous propose, avant qu'on en parle, d'écouter un petit extrait de ce long poème.
D'accord.
C'est à
bien
vous.
Sûr, je suis en japonais. Je vais faire en japonais.
Oui, bien sûr. Keiko est japonaise.
Alors, je veux ajouter une chose. Oui. Le titre, ça, c'est Dire. Mais en même temps, c'est en japonais, le titre. Iu.
D'accord.
Oui.
Dire, merci. Iu. On vous écoute.
Le corps défait.
Kowareta karada.
De l'intérieur, vidé.
Naka kara. Karappo ni natte.
Dessèchement du souffle. La soif.
Kokyu no kanso. Nodo no kanso.
Finir par la soif.
Nodo no kawaki de. Oshimai.
Bouche ouverte.
Hirakareta kuchi. Kuchi.
Trouée brûlante, silencieuse. Blanche.
Anagaite.
Ou trop d'humide.
Tamatte shiroku natte.
Retour à l'eau. Couler de mots, le fleuve, perte à flot, rien pour endiguer, le corps noyé ou d'autres
morts, ne sait pas,
laisse aller,
au
terme,
au
dernier mot,
le dire, dernier
son, avant toute mémoire, d'un coup, à jamais disparition, seul instant avant ni rien, ensuite et devant,
silence.
Ainsi l'évidence, existence enfin là, précise,
silence.
Juste avant, mais non, ne sait pas, ne peut pas reconnaître à chaque instant possible, à l'intérieur déjà la disparition inscrite dans chaque mot, la phrase en dessous, le négatif toujours mêlé ou sans couleur, indistinct ou superposé, trace, sans trace. Le corps juste avant, encore brillant, découvert nu, la peau partout ouvert, soudain se referme ou non, tout béant, les plaies cassures, bouche ouverte, main ouverte, les yeux sur rien, relâchés, détendus, inertes.
Merci beaucoup, merci Leïla, merci Keiko pour cette lecture étonnante. Alors la première question qui me vient, après vous avoir entendu, c'est pourquoi cette rencontre des deux langues, français et japonais, et Et comment cette rencontre s'est faite, rencontre des langues et votre rencontre? On a 7 minutes, ça va être...
C'est une longue histoire, alors.
C'est d'abord la rencontre de nous deux, c'est-à-dire des personnes. Et on a su que Keiko était comédienne et du coup, on a eu l'idée de travailler ensemble. Mmh. Et avec Philippe, on s'est dit que l'écriture qui correspondait le mieux au japonais, de façon assez étrange, c'était l'écriture de Colbert. Parce qu'elle est très épurée et elle pourrait ressembler aux haïkus, qui sont les poèmes japonais.
D'accord, donc c'est parti de votre rencontre et vous êtes allé chercher un texte de Colbert.
Par hasard, comme je parle japonais, alors c'est pour cela qu'on a choisi deux langues.
Et tu me disais tout à l'heure, Keiko, que tu étais en France pour la création de ce spectacle et que tu retournais au Japon
très bientôt. Fin d'octobre.
À fin octobre, d'accord. cet auteur, Daniel Colbert, Leïla, tu la connaissais avant.
Oui.
Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur cette femme profondément seule, engagée?
Oui.
Ce que j'ai cru.
Oui, c'est ça, seule et engagée. Elle a une vie assez courte.
Il est né en 1940. Elle est morte au jour de son anniversaire de naissance, 78. Mmh. Alors, elle était morte à l'âge de 38 ans. Voilà. S'il était vivante, elle a 72 ans, je crois.
Oui. Voilà. Sa mère est encore en vie, qu'on a rencontrée, parce qu'en fait, Philippe, ça fait 6 ans qu'il travaille sur l'écriture de Colbert. Mmh. Donc, il a monté plusieurs de ses textes, meurtre, survie. Bataille, qui est une écriture radiophonique. Et donc, c'est une femme qui est née en Bretagne, qui a beaucoup, beaucoup voyagé, puis qui est née pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc c'était l'occupation allemande. Ses parents étaient déjà dans la résistance, et puis elle s'est mise à écrire très tôt. Les cahiers, elle a commencé à écrire, elle avait 16 ans. Mmh. Et puis, elle a beaucoup voyagé, elle s'est engagée très rapidement alors on sait pas bien si elle était vraiment engagée au FLN, mais il y a eu des liens avec la guerre d'Algérie. Je crois que très vite elle a décidé d'arrêter sa vie là.
Bon.
Voilà.
Et c'est vrai que ces textes sont, en tout cas dire, très radiophoniques. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur sa mise en espace, sa mise en scène, ce qui sera à voir la semaine prochaine au Théâtre du Verso, au Verso, à l'Atelier du Verso.
Oui, la proposition scénique qu'on fait, elle est très... Philippe nous a dit en répétition hier soir une chose qui me semblait très juste et que j'avais envie de dire ici, c'est que si on a décidé de sortir le texte du livre et de le mettre sur le plateau, c'est parce que c'est un texte sensible et qu'on avait envie de partager cette sensibilité-là avec le public. Et je crois que c'est l'essentiel. Une sensibilité aux éléments naturels, au rapport au public, une sensibilité entre nous deux.
C'est ça.
Voilà.
Très bien, merci. Merci beaucoup pour cette interview chronique express. Pour rappeler les dates, donc dire, c'est à l'Atelier du Verso.
Oui.
C'est par la compagnie du théâtre, enfin par le Théâtre du Verso, du 22 au 27 octobre, donc la semaine prochaine. Pour continuer sur cet agenda culturel, nous avons entendu tout à l'heure les cartes blanches très intéressantes qui présentaient le spectacle Billie Jean Alice Caster. Et il joue ce soir à la MJC de Bron. Voilà, donc c'est ce soir, venez nombreux. Ensuite, la semaine dernière, on a parlé longuement au Théâtre de la Gamelle du spectacle d'Uras Platini, qui joue au NTH8, Nouveau Théâtre du 8e, depuis le 17 octobre et jusqu'au 28 octobre. On en reparlera, je vous en reparlerai la semaine prochaine après l'avoir vu. À ne pas rater non plus La méthode Boucher de la compagnie Cheval et Associés, un théâtre féministe burlesque. Ce sera au CCO de Villeurbanne dimanche. Et voilà, une dernière petite info qui n'est pas un spectacle à voir, mais un blog à consulter qui s'appelle La Nouvelle Réplique. C'est un blog de théâtre qui fait la part belle aux compagnies émergentes. Voilà, merci à vous.
Il faut réserver.
Il faut réserver si vous avez pris des notes. Voilà, beaucoup de choses à voir. Merci beaucoup pour vos réponses efficaces et cette lecture, cette lecture très très intéressante et alléchante.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Clara. Je te repasse la parole.
Et ben merci à tous et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir.